She loves you, yeah, yeah, yeah. 2,000 years ago, the proudest poet was Kiewit Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is Ich bin ein Berliner.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante, on n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families and America. Thank you very much.
Ça y est. Le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylone. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non. Album d'histoire.
Show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entend les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Alors, pour cet album d'histoire, on va aller se promener un petit peu loin dans le temps. On va pas rester trop collé à notre actualité, quoique, vous savez, l'histoire nous apprend bien des choses. L'année qui va être évoquée, c'est 1966. J'ai choisi pour illustrer cette année dans le monde, plutôt qu'en France d'ailleurs, la présence d'un artiste français, Jacques Dutronc, qui est né, lui, le 28 avril 1943, et c'est un Parisien, un vrai Parisien. Il est chanteur, compositeur, mais surtout aussi, il est un acteur français, on aura l'occasion d'en reparler. Jacques Dutronc va sortir en 1966 un tube, vraiment ce qu'on appelait un tube à l'époque, qui va fracasser l'audience dans les radios qu'on écoutait énormément à cette époque-là. La télévision était qu'au début, hein, nous sommes en 66. Et le titre qui l'a fait vraiment décoller, on va l'écouter tout de suite en extrait. Et vous allez forcément reconnaître, car c'est une chanson qui a traversé le temps.
Cent millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi. Avec mes manies.
Alors cette chanson va donc avoir un succès phénoménal et l'album qui est éponyme, hein, qui s'appelle « Et moi » sort à cette année 1966 et va se vendre à plus d'un million d'exemplaires. C'est pour vous dire le succès que ça a. Jacques Dutronc a cette particularité donc de manier un humour décapant ou tout en se collant un peu à l'actualité. Au moment où on a baissé l'extrait de Et moi, il parlait de l'Union soviétique, car en 1966, évidemment, c'est très important. Jacques Dutronc, on peut dire, participe au début de l'épopée Yéyé. On appelait ça les yéyés. Alors, c'est ainsi que dans le début des années 60, il a commencé à faire un groupe. Il a commencé à être un petit peu connu. C'était surtout un compositeur pour les autres. Hein. Ce n'est pas lui qui faisait ses chansons. Il a composé notamment pour une artiste qui va le suivre, on va dire, toute sa vie. Elle s'appelle Françoise Hardy, qui va devenir donc un peu plus tard sa compagne. C'est un guitariste. Peut-être qu'on ne le sait pas trop, mais Jacques Dutronc, au départ, c'est un guitariste. Il a notamment été le guitariste d'Edith Mitchell, donc des pointures de l'époque. Hein. Edith Mitchell, c'est une grande pointure de cette époque-là. Ensuite, il a travaillé lui-même dans des maisons de disques. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs avec toujours son humour qu'il caractérisait, un peu cet humour grinçant. Il dit « Moi, pourquoi j'ai eu du succès ? Parce que j'étais dans la maison de disques. » Donc, c'était plus simple pour avoir du succès, en effet. Il suffisait simplement de se promouvoir soi-même, en quelque sorte. Mais il plaisante parce qu'il n'avait pas du tout envie de se promouvoir lui-même au début. C'était quelqu'un d'assez timide, réservé, Jacques Dutronc. Et se voir devant le public en train de chanter, ça ne l'avait vraiment jamais inspiré. D'ailleurs, on va lui reprocher d'être au minimum dilettante, voire fainéant. C'est peut-être pour ça qu'il aime bien la Corse. Il s'est installé en Corse et il y est toujours d'ailleurs. Hein. C'est un fidèle de la Corse, c'est un Parisien qui est devenu un peu Corse, on peut dire. Alors au niveau de la musique, il ne produira pas beaucoup d'albums dans sa vie, en fait, quand on réfléchit bien. Hein. Sa discographie studio se résume à 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7-8 albums donc de 1966 à nos jours. Alors évidemment, il y aura d'autres albums, des albums live, des albums où on découvre qu'il est quand même capable de monter sur scène pour faire le chanteur, même si ça lui en coûte énormément d'après ce qu'on sait de lui. Alors, on est en 1966, on est avec Jacques Dutronc. Je vais vous laisser avec un deuxième extrait, toujours de cet album de cette époque-là. Alors avec un titre qui lui va bien aussi, hein, ça s'appelle « Les Playboys ».
Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la plage comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron.
Au drugstore des Champs-Élysées, là aussi c'est le Parisien qui parle. Les Playboys, une chanson pleine d'humour aussi, où il se moque un petit peu de lui-même, pas peu, parce qu'il a été traité de Playboy à ses débuts. C'était un beau garçon, hein. Il est agréable. Le Jacques Dutronc, il a beaucoup de charisme, mais il se cache toujours derrière cette timidité excessive avec très rapidement ses lunettes de soleil qui deviendront sa marque de fabrique. Alors dans ce monde, il s'en passe des choses. Pour information, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 1966, le président de la République française s'appelle Charles de Gaulle. Vous vous rendez compte, Charles de Gaulle, ben oui, hein, on n'est pas si loin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il est revenu au pouvoir, il va créer la Ve République. La Ve République, donc en 1958, il fait un coup d'État, entre guillemets, on va dire, absolument pas sanglant, sans histoire, et il reprend le pouvoir en 1958. Et puis, en 1962, ça sera la constitution de la Ve République qui nous continue à être ce qui nous dirige en 2012. C'est pour vous dire que ça dure, cette Ve République. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'on va s'en sortir rapidement de cette Ve République, parce que ça arrange bien les gens quand même, cette présidence de la République, cette espèce de roi là, de France. Bon. Ceci est une autre histoire. Revenons en 1966. Allons faire un petit tour sur le continent africain et on va se rendre compte qu'à cette époque-là, c'est la fin un peu du colonialisme. Entre autres, d'ailleurs, fortement impulsé par le général Charles de Gaulle, hein, qui veut se débarrasser de nos colonies et veut mettre à la place un semblant de démocratie, parce que ça va être bien compliqué avec les petits rois teulés africains. Alors, par exemple, il y en a un qui arrive au pouvoir. grâce à un coup d'État en Afrique, c'est souvent le cas. Il s'appelle Jean Bébel Bokassa. Vous vous rappelez de Bokassa ? C'était le 1er janvier 1966 qu'il prend le pouvoir en Centrafrique. Et puis après, il va délirer, ce Bokassa, et ça va durer jusqu'au temps de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, où il deviendra Bébel Bokassa Ier. Il va se faire couronner empereur. Ensuite, aux Républiques démocratiques du Congo, eh ben, on se débarrasse des Belges, en quelque sorte. Et on s'en débarrasse jusqu'à changer le nom des villes. C'est-à-dire que la capitale de ce nouvel État, la République démocratique du Congo, qui était l'ancien Congo belge, célèbre par Hergé et Tintin au Congo, je ne sais pas si les amateurs de Hergé se souviennent de ce premier album de Tintin. Eh ben, c'est Léopoldville, parce que du nom du roi des Belges, Léopold, on change de nom de Léopoldville et ça va être Kinshasa. Kinshasa, donc maintenant on dit d'ailleurs plutôt le Congo Kinshasa. Alors, qu'est-ce qui se passe encore dans cette Afrique en 1966 ? Eh bien, il se prépare une sale guerre, une très, très sale guerre. C'est de la faute, en fait, à un événement qui nous est paru certainement à l'époque assez secondaire. Ça se passe au Ghana. Au Ghana, il y a une minorité de Nigérians assez nombreux. Et donc, le Ghana, la présidence du Ghana et l'Assemblée, entre guillemets, nationale du Ghana, c'est-à-dire surtout dirigée par une ethnie, comme souvent en Afrique, eh ben, le Ghana expulse les Nigériens de 1966 jusqu'en 1967. Eh ben, cet événement, qui ne semblait pas important, va devenir une des plus grandes tragédies qu'ait connue l'Afrique, ce sera le Biafra. On va écouter notre ami Jacques Dutronc, toujours aussi drôle, toujours aussi impertinent, avec Mini Mini Midi.
Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moc et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air.
Ben voilà l'inimitable Jacques Dutronc avec ses mini. En effet, au niveau de vestimentaire, il va y avoir une révolution quand même, hein. Les jupes des filles et des femmes vont sacrément raccourcir, hein. On est en 1966, on est dans une époque relativement puribonde et ça va être la révolution, hein. Plus les jupes des filles remontaient et plus les gens commençaient à s'affoler en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ces filles-là qui nous montrent leurs jambes, hein. Et elles ne montreront pas que leurs jambes puisque souvent il y aura aussi, elles vont nous montrer leur tête. Leur tête en nous expliquant que peut-être on est en 1966, les temps changent et que peut-être qu'il faudrait peut-être voir la femme autrement. Alors pas qu'en voyant leurs jambes, bien entendu, mais en voyant aussi qu'elles existent et qu'elles sont partie prenante de notre société. Et je dirais, c'est un long, long, long combat qui commence. Ça va être les féministes, hein, des années 60, 70. Ça va être le droit à l'avortement. Ça va être beaucoup de choses. Et je dirais, regardez avec le recul du temps. On met 50 ans plus tard et enfin, notre Assemblée nationale, enfin, va ressembler à peu près à ce que devrait être toujours une assemblée, c'est-à-dire que la moitié de la population est représentée à peu près, pas tout à fait encore, mais à peu près de façon équitable. C'est bien la première assemblée nationale de notre pays en 2012 qui ressemble un petit peu à ce qu'est vraiment la vie, les deux parties, les hommes et les femmes, répartis à peu près équitablement. On est loin encore pour les postes les plus importants, mais enfin quand même. C'était donc dès 66 et dès les premières révolutions, y compris vestimentaires. On va passer en Amérique, là, on va traverser l'Atlantique Et puis en 66, il y a un événement très important qui se passe, c'est à Cuba. Fidel Castro, donc, qui est à la tête de cet État, qui est profondément opposé aux États-Unis, eh ben, va déclarer la loi martiale. Parce qu'il se méfie et il pense que les États-Unis vont probablement attaquer son pays. Ce qui sera le cas d'ailleurs, hein. On oublie un peu l'histoire, ça passe vite, hein. Avec l'histoire de la baie des cochons où les États-Unis d'Amérique attaqueront Cuba mais seront refoulés. Et depuis, eh ben, depuis tout ce temps-là, eh ben, Cuba, Fidel est encore là. Oh, est-ce qu'il n'est plus tout à fait au pouvoir? Bien sûr, hein. C'est un vieux monsieur très malade, je pense. Mais enfin, il est toujours là officiellement, Fidel Castro. Vous voyez comme il y en a qui durent dans la vie, hein. C'est incroyable. Il y en a un autre qui aura duré énormément. Alors là, lui, c'est en Afrique, j'avais oublié de le citer tout à l'heure. C'est Joseph Désiré Mobutu. Mobutu, donc. En République démocratique du Congo, donc le Congo Kinshasa, eh ben, il va devenir le président de cette république, entre guillemets république là aussi, et ça va durer des années, des dizaines d'années. Voilà. Cuba, ben, c'est pas fini. Hein. En Argentine, puisqu'on a décidé de traverser l'Atlantique, vous savez, c'est pas forcément l'Atlantique Nord, hein, il y a aussi au Sud, hein, il y a, comme on dit, il y a l'Amérique, mais l'Amérique, ça ne veut pas dire les États-Unis d'Amérique, ça veut dire les Amériques. Ça va de l'Alaska à la Terre de Feu, ça en fait des gens, des cultures très différentes. Donc, loin des États-Unis d'Amérique, en Argentine, il y a un coup d'État militaire qui va renverser donc, le président qui était en place. Et ça va être le début, on peut dire, d'un régime autoritaire, bureaucratique et dominé par les militaires. Dès 66, et puis après, bien entendu, avec les tragédies des années 70 et les dictatures qui vont s'en suivre. Et le 29 juillet 1966, on peut dire que c'est déjà les prémices de ce qui va se passer après en Argentine. La police déloge les professeurs et les étudiants qui ont investi les universités de Buenos Aires. Et ben voilà, c'est le début de la répression qui va durer combien de morts, combien de disparus. Au Pérou, il y a aussi une très grande répression. Tout ce continent sud-américain va être l'objet de ces années-là, les années 60, à au moins jusqu'à presque la fin du siècle, du 20e siècle, sujet à des coups d'État, des reprises en main par les militaires, quelques courts moments de démocratie, et puis ça recommence. Alors souvent, parce que justement, le grand voisin états-unien, eh bien, il en a fait un petit peu son terrain de jeu. Son terrain de jeu, il ne veut pas que se développe le marxisme à cette époque-là. Hein, c'est très important. Il y a l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre, les deux grands blocs. Et puis, les deux grands blocs, ils essayent de gagner, de poser leur pion, un peu comme sur un échiquier. Et les États-Unis ne veulent surtout pas, aucune possibilité pour que le marxisme se développe en Amérique du Sud. Il y a déjà Cuba là qui est juste à côté, il ne voudrait pas que ça se développe de trop. Donc ils vont tout faire pour empêcher ça, au prix de se renier, puisque les États-Unis sont une démocratie, indéniablement, et ils vont soutenir les régimes dictatoriaux en Amérique du Sud pendant de nombreuses années. D'ailleurs, revenons aux États-Unis une petite seconde avant de laisser Jacques Dutronc nous chanter quelque chose. Le 8 novembre de cette année-là, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie. Allez, on va laisser Dutronc qui va nous parler justement d'un sujet d'actualité. Eh oui, 1966, c'est une année où, en effet, il y a des cactus un peu partout. Il y a du cactus dans le monde. On a vu un peu déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, on est en pleine ségrégation raciale, hein, faut le savoir. Hein. C'est les premières émeutes. Enfin, c'est pas les premières émeutes, mais c'est parmi les plus importantes émeutes qu'il y ait eu. À Chicago, à Cleveland, il y a des morts. Hein, on rigole pas du tout avec les Noirs et les Black Power qui se viennent juste de se créer. Il y aura aussi la création de ce qu'on appellera le mouvement des Black Panthers en 1966, au mois d'octobre, qui resteront célèbres pour leurs actions violentes contre cette démocratie américaine qui oublie qu'il y a deux citoyens de deux catégories différentes, les blancs et les noirs. Il y aura d'ailleurs l'apogée des Black Panthers, c'est probablement le geste symbolique des coureurs noirs américains en 1968, c'est-à-dire 2 ans après, aux Jeux de Mexico, où ils lèvent leurs poings gantés de noir pour signifier que les États-Unis, c'est pas du tout ce qu'on veut bien montrer au reste du monde et que c'est surtout un pays où la ségrégation règne dans tout le Sud de façon incroyable à cette époque-là. Bon, voilà pour les États-Unis. Revenons un petit peu aussi à des phénomènes, à des instants, je dirais, importants qui ont marqué l'histoire. Alors, le 1er septembre 1966, en voilà un. Notre général de Gaulle, de temps en temps, il avait des fulgurances. Il se rend, alors il se déplace, il va même été en Union soviétique hein, en 1966, ce qui n'est pas du tout évident. Et puis surtout, il va se rendre au Vietnam. Et c'est ce qu'on va appeler le fameux discours de Phnom Penh. Charles de Gaulle, avec son culot incroyable, comme il avait en 1940 quand il lançait son appel du 18 juin 1940, en disant que ça y est, on allait battre l'Allemagne nazie alors que la France était complètement écroulée. Et bien là, à Phnom Penh, il dit qu'il n'y a pas de solution militaire au Vietnam. Et il dit qu'il demande immédiatement l'évacuation des forces américaines et il faudrait commencer la négociation de paix. Quel visionnaire, notre général, quand même. Hein. Mais enfin, ce n'est pas ce qui va se passer, comme vous savez. Ça va être l'horrible guerre du Vietnam qui va durer, et qui va marquer une génération, la génération des États-Unis, donc qui va exploser et qui va aussi se révolter. Et ça va être les premières communautés hippies aux États-Unis d'Amérique. Les premières communautés hippies voient le jour du côté de San Francisco, donc en Californie, pendant que Ronald Reagan est élu gouverneur de cet État, pour s'opposer par la non-violence à cette violence des États-Unis dans le monde, entre autres en Amérique du Sud, comme on l'a vu, et puis bientôt et surtout par cette guerre terrible qui va se dérouler au Vietnam. On va écouter encore notre ami Jacques Dutronc, toujours très inspiré, à mon avis, dans ce premier album qui s'appelle « Et moi, et moi, et moi », avec une chanson qui s'appelle « Les gens sont fous, les temps sont flous ».
Les gens prennent tout, les temps sont sous ça, les francs, comme ça d'un coup. Ils ont besoin d'un petit chouchou, d'un mermidou, d'un grand bichou, d'un truc en plastique, en caoutchouc, une petite chose pour faire chouchou et qui flambe vite comme Amadou. Les gens sont fous, les temps.
Alors j'espère que pour certains qui sont un petit peu plus âgés, ils ont pris du plaisir à réécouter cet album de Jacques Dutronc. Et puis pour les plus jeunes, bah peut-être à découvrir un peu cet auteur, compositeur, fantaisiste de talent, de grand talent à mon avis. Avant de quitter cette émission, on va faire le tour de cette année 1966, mais disons, on va laisser le monde et tous ses problèmes. Alors bon, les États-Unis commencent à livrer un armement à l'État d'Israël, donc ça, ça ne présage rien de bon. Et on va faire un petit tour de ce qui se passait en musique, justement. On est en 1966, vous savez, ça fait partie de ces charnières et ces grandes révolutions musicales qui vont nous arriver, là. Alors, chez nous, on était très yéyés, donc vous avez eu un de ceux qui sortaient du lot, là, Jacques Dutronc, mais sans ça, il y avait à l'appel des chanteurs yéyés d'une nullité remarquable qui étaient, disons, ceux qu'on entendait dans les radios, hein, essentiellement. J'ai rien contre eux. Hein. Jean-Jacques Debout et Chantal Goya se marient à Nogent-sur-Marne, deux vedettes de l'époque. Bon, voilà. Et puis de l'autre côté de la Manche, eh ben, y a autre chose qui se passe. Hein. Alors les propos de John Lennon, un des plus charismatiques des Beatles, lors d'une interview au London Evening Standard, va provoquer une sorte de cataclysme. Il dit « Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ ». Bon, ça c'était du John Lennon tout craché, bon, il dit un truc comme ça, ça le faisait rire. Mais ça ne fait pas rire tout le monde. Alors, une radio de l'Alabama, l'État du Sud des États-Unis, très conservateur, reprend ses paroles. Et ça va déclencher aux États-Unis d'Amérique un truc délirant. Le groupe des Beatles s'apprêtait à faire une tournée qui, entre parenthèses, sera la dernière tournée des Beatles, puisqu'elle se terminera à San Francisco le 29 août 1966. C'est le dernier concert public des Beatles. Bon, ça, on ne pouvait pas le savoir encore, hein, bien entendu. Donc, cette radio de l'Alabama relate les propos de John Lennon. Et donc, leurs disques sont brûlés sur la place publique. Des dizaines de stations de radio refusent maintenant de passer aucune chanson des Beatles. Et le Ku Klux Klan, vous savez, ces gentils animateurs avec les bonnets là, sur la tête, menacent les Beatles de les assassiner s'ils entreprennent une tournée aux États-Unis. Bon, alors Lennon est obligé de présenter ses excuses en disant que ce n'est pas tout à fait ce qu'il a voulu dire. Non, il ne se met pas en concurrence avec Jésus-Christ pour qu'ils puissent faire leur tournée aux États-Unis et sous très haute surveillance. Alors, quelques albums sortis en 1966. Il y a Les Animals, un groupe qui fait beaucoup de succès à cette époque-là, qui sort Animalisme. Il y a les Beach Boys, vous savez, c'est les gentils californiens qui font du surf, là, qui sortent Pet Sounds. Et il y a déjà le best of Beach Boys, parce qu'on est plutôt déjà un peu sur la fin pour les Beach Boys. Les Beatles, eux, sortent leur album Revolver. Superbe album, si vous avez l'occasion de réécouter ça. Les Birds, First Dimension. Les Cream, Fresh Cream. Les Cream, c'est avec ce guitariste qui va devenir très, très célèbre et qui nous bercera longtemps. Excusez-moi, j'ai perdu son nom là en parlant, mais ça me reviendra peut-être. Bob Dylan, Blonde on Blonde. Alors, Bob Dylan, lui, se fait un petit peu massacrer par les puristes parce qu'on pense que c'était un chanteur de folk et puis il commence à introduire la musique électrique dans ses albums. Alors, il se fait huer, notamment lors d'un concert qu'il donne à... que je ne dis pas de bêtises... à Manchester, et Dylan est hué par la foule et qualifié de Judas. Là, ça va mal pour lui parce qu'il a l'audace de mettre en avant la musique électrique. Quand on est un folk singer, on doit rester un folk singer. C'est difficile de changer de genre. Mais Dylan n'y résistera pas à le faire. Alors, le guitariste dont j'ai oublié le nom, ça y est, ça m'est revenu, c'est Eric Clapton. Voilà. Alors, j'en ai d'autres. Hein. Je vais très rapidement. Les Rolling Stones, ils existent complètement. Hein. C'est Got Life If You Want It qui sort. Alors, dans un genre plus sirupeux, il y a Frank Sinatra avec Strangers in the Night, pour vous donner un peu l'époque. Hein. Il y a le Spencer Davis Group. Il y a les Who que j'avais déjà consacré un album d'histoire qui n'était pas très loin de cette époque-là, des Who. Là, c'est Quick One. Des Who. Il y a Stevie Wonder, Uptide, il y a les Mamas and the Papas, etc., etc., les Kings, Jefferson Airplane, déjà, les hippies, là, hein, qui arrivent avec Take Off. Les numéros 1 au Hit Parade, et je vous laisse avec Jacques Dutronc pour terminer, Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Qu'est-ce que je veux dire, trouver d'autre? These Boots Are Made for Walking, vous vous rappelez, c'est Nancy Sinatra. Et j'en passe, Painted Black des Rolling Stones, qu'est-ce que je peux trouver encore comme premier, numéro un qui serait bien significatif de l'époque. Les Monkees aussi, les Suprêmes, et j'en passe et j'en passe. En France, il y a La poupée qui fait non de Michel Polnareff, les Playboys que nous avons vus de Jacques Dutronc et moi. Il y a Sheila, l'heure de la sortie, il y a des choses comme ça. Il y a Hugo Frey aussi qui est présent, Françoise Hardy, déjà. Et puis, un personnage qui va faire vraiment la une de 1966, Antoine, avec ses élucubrations. On va laisser maintenant Jacques Dutronc conclure avec « On nous cache tout, on nous dit rien ».
L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? Pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron? On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuget, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache caché, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
She loves you, yeah.
2,000 years ago, the proudest poet was Kiewit, Romanus, Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels. That's the end of that message from the Foreign Office.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album?
Allez,
non. Album d'histoire.
Dans le show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
T'entends les sirènes, elles, sortent la grande échelle. Vas-y.
Thank you.